hommage à Them Hospital.
Bonjour, patient 8543B.
Bonjour, monsieur le docteur.
Selon les Radio X, le scanner et bon, un simple coup d'œil, le code de votre maladie est assez clair. Vous êtes invisible.
Oh mon Dieu! Ça explique pourquoi personne ne me salue dans la rue!
Ouais, normalement, je vous aurais fait poireauter dans le couloir jusqu'à ce que vous en ayez marre ou que vous partiez.
Pourquoi ça?
Ben, j'ai un tournoi de golf.
Oh!
Heureusement pour vous, un inspecteur du ministère de la Santé fait sa ronde en ce moment dans l'hôpital et je n'ai d'autre choix que de vous soigner si nous voulons obtenir la subvention.
Youpi!
Vous avez le choix entre le remède à saveur de prune, fraise ou Coca-Cola. Pour un extra de 50$, on peut ajouter de la glace.
Ça va coûter combien tout ça?
Bah, attendez que je calcule. 800$ pour le test de labo, 1300$ pour être entré dans le bureau et... un petit 5 400 $ pour la présente consultation.
Yikes!
Il faut bien que je paie mon yacht et ma piscine creusée, et également le manteau de fourrure en chihuahua de ma femme.
Je compatis avec vous, monsieur le docteur. Voici mon chèque.
Bon petit chien.
Le privé, c'est la santé!
Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de la semaine du 20 juillet 2009 de votre émission, votre magazine sur le monde ludique, puissance maximale, que vous écoutez sur les ondes de CKIA ou peut-être même sur les ondes de Radio Taïga ou Radio Anticosti. Mon nom est Vincent Langlois et je suis en compagnie, comme à l'habitude, de François Gécouillard.
Salut Vincent.
Salut François.
Fidèle complice.
Et oui, nous sommes toujours là encore cette semaine pour une autre émission quand même assez remplie de puissance maximale. On va parler de jeu, de plein de choses reliées au monde ludique. De mon côté, je vais faire un petit tour de jeux à petit prix que j'ai trouvé sur différentes consoles cette semaine. De ton côté, tu as préparé un reportage, François.
Ça va être un reportage sur tout simplement le collectif d'artistes qu'on n'arrête pas de vous parler depuis des semaines, la Toy Company.
Excellent. On va avoir la visite également de Christian Lacroix et de Mathieu Place qui vont nous parler de leur spécialité également au niveau du jeu. Et nous débutons tout de suite en musique avec la sélection de...
Musax.
Musax, c'est ça, oui.
Donc, Yannick Cap-Marty de Haute-Garonne. Et on salue toute l'allégeance de la France. Et puis, donc, lui, il trippe sur la musique de jeux vidéo, la vieille musique, la nouvelle musique. Il y a un site internet, ça s'appelle musax.info. Allez voir ça si vous trippez sur ce genre. C'est une bonne ressource. Vous êtes à puissance maximale.
Koda Kumi interprète plusieurs chansons dans la BO de Final Fantasy X-2. Tout d'abord, le thème principal du jeu, Mille no Kotoba, signifiant un millier de mots. Puis Real Emotion sur une musique J-pop. What can I do for you? We'll be right back.
bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA, ou peut-être, comme on le disait tout à l'heure, Radio Taïga ou Radio Anticosti. Et François, en fin de semaine, tu es passé par le Festival Off de Québec et tu as rencontré les gens de la Toy Company.
Exactement, j'ai rencontré quelques personnes de ce magnifique collectif montréalais. Ils font de la musique électronique 8-bit et donc c'est ça, c'était dans le cadre du Festival Off. Et sans plus de présentation, on va y aller parce que tout est expliqué dans le petit montage que j'ai fait juste pour vous. Les auditeurs fous qui êtes à l'écoute.
De puissance maximale. Alors, allons écouter ton reportage tout de suite.
Would you like to go for a ride, Dorothy?
La Toy Company est un collectif d'artistes montréalais fondé en 2008, s'inspirant des jeux vidéo.
Je voulais savoir, là, on est en compagnie de Manuel, aussi, de Vex Taxi Nouveau, qui a fondé la Toy Company. Je voulais savoir, la Toy Company, là, c'est un collectif d'artistes. Est-ce que c'est un peu comme les Transformers? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes tous ensemble, vous êtes une super weapon, super puissante?
Ouais, ben, ouais, moi, je dirais que oui, là, parce que, à Montréal, avant qu'il y ait une compagnie, les artistes 8-bit jouaient avec des groupes metal ou avec d'autres groupes. Donc, on n'était pas réunis, puis on travaillait chacun de notre côté. Fait que c'est ça. En réunissant Taxi Nouveau avec des morceaux d'Alice FX, XC3N, Pocky, ça finit par faire Mad Fuzz. Puis il y en a d'autres là, qui s'est rajouté, Sam, puis il y en a d'autres qui vont se rajouter. On fait un plus gros transformer, puis on prend notre place en tant que scène 8-bit à Montréal.
Nous nous sommes entretenus avec deux DJ. XC3N.
Je me qualifie comme un geek, quelqu'un qui s'associe beaucoup à la culture hacker. Ouais, c'est ça. Geek, ça pourrait marcher. Non, je travaille avec le Game Boy, Nintendo DS, le Nintendo. Pas mal de trucs, à vrai dire. Là, ce soir, je travaille en collaboration avec Alice FX, donc le spotlight est plus sur Alice FX. Moi, je suis en arrière, je fais du bruit.
Pocaille.
Avec ta compagnie, pas mal de DJ résident. Soit je vais faire mes propres trucs, moi, visualiste en chef. Je fais souvent mes propres trucs aussi, souvent adapter des adaptations de vieux jeux vidéo que je vais comme remixer, puis faire des belles images avec ça. Ou, ben non, je vais prendre des visuels de d'autres artistes qui ont, puis je vais comme les mettre un peu sur le beat.
Ensuite, on a Noya qui, lui, est avec son drummer, donc son deux. Alors ça, c'est un petit peu plus... Déjà, on rentre déjà plus dans le live. On a un Game Boy là-dedans. Il y a de la bass live, il y a du drum live. C'est high energy, c'est pas mal fun. Moi, ce que j'aime dire, c'est que Toy Company est surtout basé sur le jeu. Donc, on a l'aspect jeu vidéo au niveau des sonorités, au niveau du matériel qu'on emploie. Il y a aussi un aspect performance que je trouve qui est important. J'aime ça qu'on ait des artistes qui se donnent sur la scène, qui font pas juste regarder leur écran puis avoir l'air d'accord avec ce qui se passe.
Est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes déguisé?
Ben, il y en a qui sont déguisés. Là. On va penser notamment à la prestation de Popcorn dans le dernier Toy Company, qui est très théâtral. Il y a des costumes. Moi, j'ai un masque, mais c'est aussi un micro en même temps, donc c'est joint de utile au creepy.
Est-ce que vous dansez aussi en même temps?
Ouais, je veux pas la musique te fait danser. Je sais pas si je fais même pas exprès, là. Ça part du sol de...
Ça, on essaye d'amener des artistes de la scène de Montréal qui font du 8-bit dans leur sol, tout seul, ben de leur donner peut-être une place, genre comme on fait souvent. Les dernières fois, c'était à la SAT. C'est un artiste 8-bit qui fait à la SAT tout seul. Je pense que ça s'est jamais produit.
On n'est pas une scène fermée, puis on n'a jamais voulu l'être, puis on le sera probablement jamais. On veut que les gens aient du fun, qu'ils aient une bonne présence, puis évidemment qu'il y ait un semblant de similarité avec des jeux vidéo, tu sais, que c'est pas vraiment compliqué, mais mets-toi un sou de Mario dans la face, puis viens faire ton affaire. Je veux dire, on n'est pas capricieux, puis on a déjà beaucoup d'artistes résidents qui, mettons comme moi, utilisent quasiment exclusivement du matériel de jeux vidéo. Fait que moi aussi, c'est parce que ça balance, là. On parle de des sons qui sont très raw, là, comme on dit, c'est cru, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de filtre là-dessus, c'est très dans ta face, c'est la console, puis c'est tout. Au bout de 2 heures, à un moment donné, t'es écœuré. D'entendre bip-bip, je pense que ça prend de quoi un peu pour diversifier.
Je voulais savoir, là, on parle de musique 8-bit, on parle de musique inspirée des jeux vidéo, là. Parlons un peu de jeux vidéo, là. Vous, en tant que tel, c'est quoi vos inspirations, vos jeux préférés, mettons, dans les jeux vidéo?
Moi, je suis resté installé dans les années 80-90, là. Des trucs qui se font aujourd'hui que j'aime bien, mais c'est sûr que mon cœur est resté là-bas, là.
Tu parles de gameplay ou tu parles de musique? Mettons, dans la musique qui m'a le plus inspiré, je dirais Castlevania sur le Nintendo, le soundtrack qui est ahurissante. Et Megaman aussi, évidemment, qui sont c'est un incontournable. Moi, j'ai trippé sur Monkey Island aussi. Tous les jeux de LucasArts, Point and Click, là, qu'on parle de Loom, Sam & Max, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, tout ça. Sinon, c'est la personnalité de la chip elle-même. Donc, on va parler de console, le Nintendo, le Commodore 64. Je commence à m'intéresser, j'ai acheté un Atari ST, je commence à m'intéresser à ça, les sons qui sortent du Amiga 1200 aussi.
Ben moi je suis un amateur de shooter 3D là, Counter-Strike, si je peux rentrer dans le top du monde, je vais être bien content actuellement, mais dans le temps je jouais beaucoup sur PC.
Ce sont aussi des gens très engagés dans la culture libre. C'est-à-dire la musique et les logiciels libérés des droits d'auteur.
Le signe de vie là, avec le plus, c'est copyright, là, pour la Croix-Rouge. Ils ont pas le droit de mettre ça dans des jeux vidéo. Non, c'est vrai.
J'ai des amis qui travaillent chez Ubisoft, puis la Croix-Rouge sont bien... ça, c'est leur symbole à eux autres, puis ça ne va pas être associé avec n'importe quoi d'autre. Puis c'est compréhensible en même temps.
C'est drôle, les citoyens qui défendent comme ça l'industrie du copyright.
Je suis pas pro. Non, mais je pirate pas quand j'ai pas besoin. Là. Je veux dire, il y a des affaires, tu sais, Sony, je m'en calisse de cette compagnie-là. Apple, je m'en tabarnak. Les grosses compagnies qui ont de l'argent, qui n'arrêtent pas de mettre des brevets sur tout pour empêcher toute innovation dans les mouvements open source. Regarde, ben, enculé, puis ça leur sort par la bouche, ça me fait plaisir, il n'y a pas de trouble. Les petites compagnies, tu sais, j'ai un Xbox 360, il est pas chippé, là, j'achète mes jeux. Pourquoi? Parce que le service est raisonnable, les prix sont corrects, puis j'ai ce que je veux rapidement. Bon, à un moment donné aussi, il faut arrêter de faire exprès. Défendre le copyright, non, je trouve que c'est un modèle qui est désuet, qui a plus de place. Moi, je suis très, très pro Creative Commons. Toute ma musique est disponible sur Creative Commons. Pas mal de ce que je fais. Ça devrait être le cas pour tout le monde. Moi, ma mentalité, c'est, regarde, le monde va voler ta musique. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux contrôler la distribution. Je garde la vla. En plus, ça, je m'arrange pas avec quelqu'un qui s'amuse à modifier, enlever des bouts, racheter une image. Mais regarde, c'est exactement le package. J'ai facile d'accès. Puis après ça, ben, si tu veux m'envoyer de l'argent, je vais m'assurer que ça soit facile pour toi. Tu cliques sur un bouton, puis clang, tu m'envoies de l'argent à tout tes bouts. Si t'en as pas, ben, garde la musique pareil. Je l'ai faite pour que tu l'écoutes, anyway. C'est plus fait pour la musique pour que le monde l'écoute plus que pour faire de l'argent.
Il y a deux choses différentes. Il y a les droits d'auteur, puis les droits commerciaux un peu. Droits commerciaux, des fois, c'est une vraie joke. Le droit d'auteur, ben là, c'est sûr que si tu prends une toune à quelqu'un et tu dis que c'est toi qui l'as fait, ben là, tu sais, en tout cas, si quelqu'un est pour ça, ben, en tout cas, nous autres, on l'est pas vraiment.
La tech company, est-ce que vous considérez comme open source à grandeur ou vous avez quand même des trucs piratés pas mal, des logiciels piratés pas mal? Ou vous visez vers la gratuité totale ou peu importe?
Ben, tu parles des... Par exemple, moi, je peux juste parler pour moi, là, parce qu'il n'y a pas de consensus. Là. Pour ce que moi, j'utilise, moi, je pirate absolument rien pour produire ma musique. Tous mes logiciels sont achetés ou sont gratuits. Puis pour ce qui est de la diffusion, la distribution, moi, c'est entièrement gratuit. Là. En ce moment, j'ai même pas rien de mis en place pour que le monde me paye. Ça va venir. Là.
Les logiciels que j'utilisais, ben, ça dépend des logiciels. Des fois, c'est des vieux logiciels. J'essaie d'utiliser des logiciels gratuits, mais des fois, c'est des commerciaux qui sont pas évidents. C'est pas comme si être VJ au Québec, c'était super payant, à moins que tu fasses des trucs pour Céline. Là. Fait que si je fais vraiment beaucoup d'argent...
Céline a fait du VJing?
Ouais, non, c'est ça, ouais, je suis disponible, mais non, pas vraiment. Je vais mettre des colombes en arrière, ça va être beau. Mais non, ben si je fais de l'argent avec ça, éventuellement, un jour peut-être, oui, je vais les acheter, les logiciels, là, mais...
Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance au futur de la Toy Company.
Ben, faut pas manquer Toy Company. Honnêtement, là, c'est, ça vaut vraiment le déplacement. Il se passe de quoi, c'est nouveau, c'est rafraîchissant.
Allez sur toycompany.cc pour plus d'informations et profitez-en pour télécharger quelques pièces gratuites. C'était un reportage de François Gécouillard de Puissance Maximale. Musique par Alice Effect et Matt Foz.
Ah, mais là, c'est pas que vous soyez pas là et que vous écoutez l'émission de radio parce que ça va être une belle soirée quand même ce soir. Là.
Sans transition, on a écouté justement un artiste qui s'est présenté au Festival Off. Donc, c'est Mathématique. C'est une jeune artiste de Québec qui commence avec un nouveau projet musical qui est actuellement dans Standing Waltz. Elle a environ 17 ans et elle fait de la musique 8-bit. Alors, elle trippe sur Tetris. Alors, allons écouter ça. La pièce s'écoute Lego Party. We'll be right back.
Chronique de Mathieu Place.
Et nous sommes de retour à Puissance Maximale en compagnie de Mathieu Place et sa chronique de jeux rétro. Bonjour Mathieu.
Oui, ben aujourd'hui je vais vous parler d'un autre grand monument du jeu rétro, un grand homme qui a inventé plusieurs jeux là qui font partie des grands classiques là du Nintendo. Alors cet homme là, il s'appelle Gunpei Yokoi. En tout cas, pardonnez mon japonais, j'ai toujours du mal à bien prononcer les noms, mais toujours est-il que ce personnage là était à la tête d'une organisation. En fait, c'était la Research and Development One. C'était une équipe de recherche et de développement au sein de Nintendo, et c'est une équipe légendaire qui a conçu des jeux comme, par exemple, vous avez Duck Hunt, Dr. Mario, Baseball, Hogan's Alley, Ice Climber, Mario Bros, Metroid, Tetris, Urban Champion, etc. etc.
Nommez-les, là, vraiment les classiques de départ de Nintendo.
C'est ça,
là.
C'était des classiques parmi les classiques, et c'est lui qui a inventé le ROB, R-O-B.
Ah,
et
le fameux robot!
C'est ça, le fameux robot
très
rapide qui fait rouler des toupies. Mais bon, hein, ça fait des bons souvenirs, même si vous avez essayé le ROB il n'y a pas longtemps, là, peut-être que vous êtes endormi en l'utilisant. Là, c'est vraiment terrible. C'est comme
J'imagine
un défi,
qu'un jeune,
là,
quand t'avais 8 ans, là, 9 ans, là, c'est impressionnant de voir ça. Là.
Ben, bon,
c'est
15 minutes, t'avais du fun.
Ouais, c'est ça. Chaque 15 minutes, là, puis c'était très, très, très difficile de diriger le ROB. Alors, ce personnage-là, il a commencé sa carrière à Nintendo. Il était concierge en 1970. Il a commencé comme concierge. Il faisait le ménage. Et puis, à l'extérieur des heures de travail, il utilisait les machines de Nintendo pour concevoir des petits gadgets. Au départ, Nintendo, dans les années 70, c'était pas encore des jeux vidéo qui concevait. C'était surtout des... au départ, il y a 100 ans, c'était des cartes. Mais dans les années 70, c'était des robots, des espèces de jouets mécaniques. Et puis, notre cher Gunpei Yokoi avait conçu à l'époque, à l'extérieur de ses heures de concierge, un espèce de bras extensible qui s'appelait le Ultra Arm. Et puis, le patron de Nintendo, quand il s'est promené dans l'usine, il a vu le jouet conçu par M. Yokoi, et puis il a dit de le commercialiser, d'essayer d'en faire un prototype qui allait pouvoir être commercialisable. Et ouf, ça a été un gros succès. Ça a vendu à 1,2 million d'exemplaires l'année que ça a été sorti.
1,2 million?
Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce bras-là? Qu'est-ce qu'il faisait exactement?
Ben, j'ai pas vu de photo en tant que tel, là, mais je pense que c'était juste un bras extensible. C'est ça qui pouvait c'est tendre, c'est quand même pas mécanique. Ouais, c'est ça. Là, c'est, des fois, vous voyez ça dans les magasins de gadgets. Là, c'est juste un espèce de bras qui s'allonge. Vous pouvez aller chercher des cossins, graisser votre sang.
C'était à l'époque où il n'y avait pas de télécommande pour la télévision. Hein, faut pas oublier. Donc, vous pouvez changer les postes de télévision sur la roulette.
Ultra Arm. Oui. Alors, le Ultra Arm a été un grand succès. Alors, monsieur Yokoi a inventé toutes sortes d'autres gadgets. Il a inventé un aspirateur téléguidé. Il a inventé un Love Tester, un Ultra Machine qui servait à jouer au baseball. Ensuite de ça, vous aviez le Nintendo Beam Gun qui était l'ancêtre du Zapper. Alors, c'est lui qui a inventé ça. Ensuite de ça, il a aidé à faire la fabrication et la conceptualisation de Donkey Kong, Mario Bros, etc. Et puis, on lui a demandé d'inventer des jeux qui pouvaient être populaires auprès de la nouvelle génération. Et puis, c'est en prenant le métro, à un moment donné, il a vu un homme d'affaires taponner avec sa calculatrice. Il avait l'air de s'ennuyer, mais avec sa calculatrice, il avait l'air d'avoir bien du fun. Fait que monsieur Yokoi s'est dit, bon, ben on pourrait peut-être prendre une calculatrice, la repatenter et puis faire une espèce de Game Boy avec. Oh. Alors, c'est pas encore le Game Boy, désolé, mais c'est le Game & Watch.
C'est la calculatrice qui a inspiré le Game Boy en quelque sorte.
C'est ça, exactement. La calculatrice a engendré le Game & Watch. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était des petits jeux où vous aviez des petits personnages qui devaient attraper des blocs. Là. C'était assez basic, mais c'était quand même assez le fun, assez bien fait. Et puis, c'est avec le Game & Watch qu'on a inventé le D-pad, c'est-à-dire l'espèce de croix qui sert à contrôler les personnages. Alors, c'est encore une autre invention de monsieur Yokoi.
Wow. Donc, la fameuse croix pour déplacer les personnages, c'est pas venu avec les Nintendo, c'est venu avec le Game & Watch,
là, justement. Alors, c'est tout un personnage, ça n'a pas d'allure. Alors, il a inventé, je le répète, Mario Bros, Excite Bike, Balloon Fight, il a inventé Kid Icarus, j'y viens, Metroid, il a inventé le Laser Gun, le Zapper, Rob, et il a inventé le Game Boy qui s'en vient. Parce que après le Game & Watch, la prochaine génération, évidemment, c'était de pouvoir avoir une espèce de jeu vidéo où est-ce qu'on pouvait interchanger les cassettes comme avec le Nintendo.
Parce qu'on s'entend, le Game & Watch, il y avait un seul jeu dessus, c'est ça?
Il y avait un seul jeu possible dessus et puis, tu sais, c'était quand même assez basique. Alors, le Game Boy a été inventé en 1989 et puis finalement, le nom du Game Boy, c'est pas une question sexiste parce qu'on se disait toujours, ah ben pourquoi pas le Game Girl? Pourquoi Boy? Qu'est-ce qui se passe là avec ça? Mm-hmm. Ben en fait, l'idée c'était d'avoir une espèce de sidekick au Nintendo. Alors, par exemple, vous avez Batman, vous avez Robin. Bon, ben là, vous avez le Nintendo et puis vous avez le Game Boy qui est le sidekick.
Le petit frère de Nintendo.
Alors, bon, ça a été un très grand succès, comme vous le savez. Et puis, ça a été un grand succès dans le cas du Game Boy parce qu'ils ont eu la géniale idée d'agencer Tetris avec le Game Boy. Alors ça, c'était un jeu qui était une drogue pour beaucoup de consommateurs.
Ouais, encore aujourd'hui.
C'est ça, encore aujourd'hui, là, essayez de jouer à Tetris, là, ça peut pas être plus simple, mais c'est incroyablement addictif, comme on dit. Puis votre grand-mère aussi peut se...
On peut dire addictif, c'est un mot français.
Addictif, ok, bon, je n'osais pas. Alors, c'est ça. Alors, Tetris a été un grand succès pour le Game Boy. Alors, ce personnage-là, après ça, bon, il y a eu des moins grands succès. Alors, on se souvient du Virtual Boy qui a été sorti à peu près à la moitié des années 90, qui a eu pas beaucoup de succès. C'était une espèce de Game Boy dans lequel, bon, il y avait un effet 3D, mais il fallait se mettre des lunettes sur les yeux et puis c'était impossible de jouer en gang, ça. Tu sais, il y avait juste une personne qui pouvait regarder
triper
tout seul. Et puis après un certain temps, il paraît que ça faisait mal à la tête et puis que c'était vraiment pas confortable comme jeu. Et puis bon, après ça, ça a été un échec tellement cuisant que notre pauvre Yokoi, un an plus tard, a été renvoyé de Nintendo malgré ses grands services.
Il a fait une seule bavure et puis tout le
reste. Ça joue dur. Hein? Moi, j'ai entendu parler qu'au Japon, c'était assez terrible comme... ouais, c'est ça. Je n'ose pas aller dans les clichés du harakiri, mais ça peut être assez terrible parce que, bon, c'est sûr que à ce moment-là, M. Yokoi, ça faisait quoi, 20 ans qu'il était dans la compagnie. Alors, peut-être qu'il se faisait pousser un peu à l'arrière par les nouvelles générations qui voulaient prendre la place, qui voulaient, eux-mêmes inventer des nouvelles choses. Peut-être qu'ils considéraient que M. Yokoi était un géant, mais qu'il avait fait son temps. Bon, je répète, il a inventé Kid Icarus, Metroid, Dr. Mario et Rob. Et puis, bon, là,
Rob.
Le dernier chapitre...
On revient avec Rob, c'est vraiment important.
C'est bien important.
C'était son premier échec, mais ils n'ont jamais dit que c'était un échec.
Non, mais c'est un échec sympathique. On l'aime quand même, Rob. Il est toujours sympathique. Il est vraiment sympathique. le dernier chapitre de la vie de notre Monsieur Yokoi est un peu dramatique, mais il est mort en 1997, mais c'était une mort assez étrange. C'était une mort du genre « quand c'est ton heure, c'est ton heure ». Alors, il se promenait sur l'autoroute, il était en voiture avec un de ses collègues, et puis il se fait rentrer dedans par une autre voiture, un gros accident, puis finalement, il se retrouve sur le côté de la route, et puis il y a pas de problème, il s'en va, tu sais, il y a pas eu de blessure ou rien. Fait que finalement, il sort de la voiture pour garder les dommages. Pow! Une autre voiture arrive. Et voilà, à ce moment-là, c'était fait. Alors, c'est ça. Le destin, c'est comme pris à deux fois pour pouvoir l'avoir. Mais c'était son heure en 1997.
Juste pas
une chance. Il n'y a pas eu de chance.
On peut dire que c'était game over.
Oui, c'est ça. Exactement.
C'est arrivé à ce moment-là.
Ben, c'est ça. Fait qu'il a été renvoyé. C'est pauvre petit, en deux ans, il a été renvoyé de sa compagnie à cause du Virtual Boy. Puis après ça, il y a eu une mort terrible. Mais en 2006, on lui a donné une belle récompense, Lifetime Achievement, qui a été donnée à monsieur Yokoi pour toutes les innovations qu'il a faites dans le monde du jeu vidéo. Une dernière chose qui est importante par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il a inventé une des grandes doctrines de Nintendo. Alors, Nintendo se fait tout le temps accuser d'avoir... peut-être une technologie qui est pas aussi avancée que les autres, la question graphique, etc. Ben, en fait, c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là. C'est que lui, ce qu'il disait, c'est qu'on devait utiliser des technologies qui étaient bien maîtrisées, puis les utiliser de manière originale, de manière innovatrice. Pas essayer d'avoir la nouvelle technologie parce que personne la maîtrise si bien que ça. Mm-hmm. Elle coûte cher, elle est difficile à utiliser.
Se concentrer sur des trucs fiables.
C'est ça,
établis.
Des trucs fiables, mais qu'on arrive à exploiter de manière originale et puis innovatrice. Alors, c'est pour ça que le Game Boy, ça a pris tant de temps avant qu'il soit en couleur. C'est parce que lui, il voulait être sûr que ce soit un Game Boy qui était efficace et puis qui prendrait pas 14 000 batteries pour pouvoir fonctionner. Il voulait que la technologie soit bien maîtrisée avant de pouvoir la faire. Alors, c'est pour ça, c'est à cause de M. Yokoi que Nintendo traîne un peu la patte question technologie, mais qu'ils sont toujours très innovateurs dans leurs idées. Alors, voilà.
Et est-ce que, petite dernière question, c'est bien lui qui a fait Rob, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le célèbre Rob, il faudrait qu'il revienne, hein, celui-là. Il faudrait qu'il
invente un nouveau Rob. Il va venir dans un événement qu'on va organiser de jeux rétro. On travaille là-dessus.
Oui, ouais, on travaille là-dessus, ça s'en vient.
Sûrement y avoir un 25e anniversaire ou un 30e anniversaire bientôt aussi, également.
Oui, c'est ça, avec un grand tournoi de Rob.
Tout le monde combat de Rob.
Un combat de Rob,
oui. J'ai une question supplémentaire. Lui, il a commencé, il était concierge, mais est-ce qu'il y avait des études en ingénierie ou un truc comme ça?
Ben non, c'est ça qui est terrible. C'était juste un gosseux qui
travaillait mieux que les ingénieurs du.
Il venait de la Beauce.
Oui, c'est ça.
Un taponneux
qui a bien fonctionné. Mais il y a beaucoup de ça dans l'entreprise Nintendo. Hein,
ben, monsieur, dans le monde du jeu, il y a bien des gens. Là. Des fois, c'est seulement des testeurs qui montent parce qu'ils ont des idées et des choses comme ça.
Exactement.
Ben, alors, merci beaucoup, Mathieu Place, d'être passé à l'émission.
Ça a fait
très
plaisir,
intéressant comme chronique. Et on passe en musique, François.
Youpei Yokoi, un personnage très intéressant. J'espère qu'on va faire une statue à sa mesure.
À Québec, peut-être.
Qui sait, on va demander à Régis Labombe. Il a l'air bien ouvert là, des jeux vidéo de ce temps-ci. Il est en campagne électorale. C'est le moment. Sinon, on va aller écouter les enfants du souterrain du groupe français qui s'appelle Rue de la Muette. Donc, c'est une histoire d'enfants qui sortent d'un souterrain. Et donc, nous, étant donné qu'on vit dans le sous-sol, on comprend ça. Vous êtes à puissance maximale.
Ce matin, regardez-les passer sur terre, plein de lumière, les enfants du souterrain, pour échapper aux gardiens, fuient comme des oiseaux dans le ciel, plein de soleil, par-dessus toutes les frontières, ils nous montrent leur derrière, ils volent de la volaille, des vêtements à leur taille, les enfants du souterrain ont échappé aux gardiens, regardez-les passé sur terre. Plein de lumière, les gens en chien de faïence les regardent, gardent le silence. Qui sont ces bruyants gamins? C'est les enfants du souterrain. Ils veulent plus partir à la guerre, prendre des coups de pied dans le derrière, exploiter, travailler pour rien, c'est les enfants du souterrain. On veut plus partir à la guerre, prendre des coups de pied dans le derrière, exploiter, travailler pour rien, vive les enfants du souterrain. Les enfants du souterrain se sont échappés ce matin. Regardez-les passer sur terre, dans la lumière, pour échapper aux gardiens. Les enfants du souterrain fuient comme des oiseaux dans le ciel et s'éloignent dans le soleil, fuient comme des oiseaux dans le ciel, plein de soleil.
De retour à Puissance Maximale et nous sommes en compagnie de Christian Lacroix.
Hey oui, bonjour, salut tout le monde, ça va
salut
bien?
Salut Christian, très bien, et toi?
Oui, en pleine forme. Donc l'été vient de commencer, alors...
L'été aujourd'hui est incroyable, hein? Moi je veux demander ce qui se passe là, mais bon.
Ouais, d'ailleurs s'il y a des gens à Yellowknife qui se plaignent de la température parce qu'il fait tout le temps soleil ou il fait tout le temps nuit, eh bien dites-vous qu'ici il y a tout le temps de la pluie.
Et oui, première journée de soleil depuis longtemps. Et, oui.
Alors écoutez, sans plus tarder, je vais vous parler du sujet de ma chronique. Donc c'est les nominés pour le Annie Award 2009. Donc qu'est-ce que le Annie Award?
Bonne question.
Bonne question, hein? Alors c'est un peu l'équivalent du Metro Star dans le monde du jeu de rôle, dans le sens que c'est décerné par le public, si on veut. C'est la clientèle d'un site qui s'appelle N-World, E-N-World, .com. Vous pouvez aller voir ça. Et les prix sont toujours remis à la Gen Con, qui a lieu, je pense, plus tard à l'automne. Et donc là, au début du mois, là, il y a à peu près deux semaines, là, les nominés sont sortis. Je vous les nommerai pas tous, là, parce que un peu, mais je vais vous parler de certaines catégories qui m'intéressent. Reste et de certains. En plus, c'est une rétrospective un peu de la dernière année. Même si on est, vous allez me dire, au milieu de l'année, là, mais ça couvre environ 2008, deuxième moitié 2008, puis première moitié 2009. Alors, on commence donc avec la catégorie la meilleure. Là, c'est en anglais, alors je fais de la traduction simultanée. Là.
Ouais, tu peux dire en anglais, nous, on va traduire avec une voix là, à deux secondes de différence.
Oui, c'est bon. Alors, Best Interior Art, donc l'art, n'est-ce pas, le côté visuel, dans le fond, la présentation visuelle. Alors, il y a Cthulhu Tech, la nouvelle édition, et j'en profite pour faire une petite pointe à Mongoose. Moi, avant, j'étais un fanboy de... Ça, c'est éditeur, Mongoose, OK?
Éditeur indépendant, tout ça.
Ouais. C'est un indépendant, oui, britannique. Et leur force, c'est qu'ils vont chercher plein de belles franchises. Babylon 5, il y en avait plein. Donc, Cthulhu Tech aussi. Mais après ça, ils font un travail pour trouver de l'argent. Ils mettent ça en noir et blanc, tout croche, mal fait. Et là, eux, ils se sont tannés, les gens qui ont fait Cthulhu Tech. Ces trois gars-là, vraiment des Américains, ont fait ça à compte d'auteur. Et ils sont allés voir Catalyst Game Labs. Et là, ils ont dit, faites-nous ça en couleur, de quoi de beau. Alors bref, ils ont sorti vraiment une version. Et ils sont déjà récompensés avec cette nomination-là. J'espère qu'ils vont gagner. Il y a aussi Dark Heresy, donc le Fantasy Flight Games. C'est évidemment le jeu de Warhammer 40 000.
Okay, ça, c'est très comprenable qu'ils soient dans les nominés, là, parce que c'est un jeu extrêmement beau. Là.
Oui, le livre est superbe.
D'ailleurs, tous les livres que Game Workshop fait, le graphique, là, c'est leur point fort. Là,
c'est hallucinant. Donc, ils ont de très bonnes chances de gagner. Leurs règles, par contre, sont un peu boiteuses, finalement, parce que c'est trop adapté du jeu médiéval. C'est peut-être moins adapté à un jeu de science-fiction. Bref, mais pour le look, c'est extraordinaire. Bon, il y en a d'autres. Mutant Master Minds, Mouse Guard, oui, ça il faut absolument le dire. Mouse Guard, je vais faire une chronique là-dessus un jour parce que c'est vraiment un superbe jeu de rôle basé sur une bande dessinée et c'est un univers spécial où on joue une souris, n'est-ce pas, qui est garde dans une garde et on protège notre village de petites souris contre d'autres et puis contre les serpents, contre la température, plein de. Imaginez-vous les défis que peut
la
rencontrer.
La pluie,
c'est ça. La pluie, c'est une inondation à chaque fois. Là, alors bref, mais c'est bien, c'est vraiment, c'est à voir. C'est un des plus beaux et en plus des règles superbes. Donc à voir. J'espère qu'ils vont gagner quelques prix aussi. Bon, ensuite, meilleure écriture. Ça, c'est important. Le style, hein, parce que veux pas, de plus en plus, moi, en tout cas, dans mon cas, je les lis, mais c'est rare que je les joue, malheureusement. Oui. Hein. On manque de temps, on manque de tout ça. Alors, donc, mais au moins, on les lit. Fait que c'est important que ce soit bien écrit. Alors, avant, l'un des premiers, c'était vraiment mal foutu. Je peux pas tout vous rappeler, là. Mais maintenant, ils se forcent.
Oui.
Alors, donc, il y a évidemment les aventures extraordinaires du baron Munchausen.
Oh, ouais. En fait, un jeu de rôle intéressant.
Oui, c'est un jeu de rôle. C'est le deuxième, d'ailleurs, qu'ils ont fait. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils rient beaucoup des Français là-dedans. Ils font plus de points sur les Français.
Que l'on salue encore une fois.
Qui nous écoute. Oui, mais que voulez-vous, c'est comme ça.
C'est des choses qui arrivent.
C'est un jeu américain, j'imagine.
Oui, oui. Puis, comme dans le film aussi. Hein,
ouais.
Et tout ça, ouais. C'est, y a
ouais, je me rappelle qu'à la fin, ouais, c'est ça, il y a un ambassadeur français qui discute avec les Turcs, là, puis les méchants Turcs, ouais.
Oui. Alors voilà, donc c'est assez bien. Il y a un jeu aussi indépendant, indie qu'on appelle, c'est Don't Lose Your Mind, de Evil Hat Productions. Moi, je l'ai, c'est quelque chose, c'est un travail sur la folie. C'est une extension de Don't Rest Your Head, qui est sur l'insomnie. Alors le thème, c'est que tu dors plus, alors tu deviens tranquillement fou. Est-ce que c'est quoi le réel? C'est quoi?
Oh boy.
C'est ça, c'est le genre de jeu qui tu lis ça, tu dis wow, mais à jouer, tu est-ce que ça va fonctionner? Mm-hmm. Mais en tout cas, le livre est vraiment superbe et bien écrit, effectivement.
C'est pas fait pour les ados non plus, là, c'est fait tout
non, c'est pour les. Oui, adultes. oubliez ça. Puis même pas n'importe quel adulte, mais
ouais,
adultes
c'est ça,
matures.
C'est ça.
Voilà. Alors, ensuite, il y a aussi.
Pour nous autres,
non, ben, moi, j'essaye, mais. Il y a aussi le Hunter Horror Recognition Guide de White Wolf.
Oui.
En tout cas, il y en a. Oui, mais eux, ils font aussi de. C'est leur force, je pense. Très bien écrit, souvent, leur livre. Alors, j'accélère un peu. La meilleure valeur de production, best production values, ça c'est quoi? Ça c'est encore là un peu le look, mais l'autre prix que j'ai, le premier que j'ai parlé, c'est vraiment la catégorie sur vraiment là, les dessins, la qualité si on veut, graphique. Mais ça c'est la qualité de la reliure, hein, le papier glacé,
okay.
Y a-tu un index, l'organisation du livre, ça va tout ça. Alors il y a Anima, le Fantasy Flight Game, Anima Beyond Fantasy, très bien fait pour ça. Toulouse Tech, encore une fois. Dark Erizy, encore. Hellas, que je connais pas. Et Mouse Garn, encore.
Il y en a quelques-uns qui reviennent.
Oui, souvent, on voit là, que certains qui reviennent constamment. J'espère que Mouse Guard va gagner parce qu'il est vraiment sublime.
Il est original aussi.
Oui, c'est ça. Ensuite, les meilleures règles. C'est important, hein, ça prend les règles. Alors, Dark Erizy est là. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas, selon moi. Mais enfin, il faut croire qu'il y en a qui l'ont aimé assez pour le mettre là. Donjons et Dragons, tiens. Oh, quatrième édition. Qui est là?
Ah,
ça,
controversé.
C'est moins controversé parce que, mais N-World, c'était dans le temps du D20, là, il y a 2, 3, 4 ans, c'était le site. Ils sont vraiment basés là-dessus, okay. Sur Donjons et Dragons. Mmh. Donc, il y a quand même.
Ils sont biaisés, D20.
Ouais, fait que probablement que ça va voter fort.
Le méchant D20.
Ouais, pour ça, mais on va voir. Ensuite, Wizard of the Coast, c'est l'éditeur évidemment, de Donjons et Dragons. Il y a Hunter the Vigil de White Wolf. Alors, ça, c'est. Et il y en a un aussi que j'aime bien, c'est A Song of Ice and Fire. Ça, c'est basé sur un univers, là, sur une série de romans. C'est vraiment excellent. Et on joue un peu comme dans d'autres jeux où on joue une maison de nobles. Alors,
oh.
Moi, je pourrais être, mettons, le descendant, puis là, Vincent pourrait être mon espèce de bodyguard, là, et mon garde du corps, tout pourrait être mon éclaireur. Puis, on joue des rôles comme ça.
Ah, ça va être
mon conseiller, le maître un peu magicien. En tout cas, donc, c'est vraiment bien pour les règles qui sont bien faites pour ça. Bon, il y en a d'autres, je passe. Ensuite, je vais aller à, le meilleur, meilleure aventure. Juste une petite note, il y a Purge the Unclean, encore lié à Dark Erizy.
Ben oui.
C'est
un scénario.
Oui, un scénario. Moi, en tout cas, ça serait mon préféré là, dans le. Il y en a évidemment que je connais pas là-dedans. Hein, celui-là, il est excellent, effectivement. Bon, je continue. Ah oui, le meilleur univers. Le best setting, hein, meilleur univers, ça c'est très important.
Je dirais Dark Erizy doit être là-dedans aussi.
Vous avez le Dreadful Secrets of Candlewick Manor, que je connais pas. Hot War. Que je connais pas. Pathfinder Chronicles, ça je le connais, c'est bien. Vous avez Slipstream, que je ne connais pas, finalement. Et on explore, hein, souvent, c'est, on va dans l'indépendant. Et il y en a un qui m'a vraiment jeté à terre et que j'ai commandé tout de suite quand j'ai vu ça. C'est Swashbucklers of the Seven Skies.
Oui, tu en avais déjà parlé.
Oui, The Atomic Sock Monkey, Evil Hat, c'est une coproduction. Et c'est un univers capoté. Le gars, il a dit, je vais tout mettre ce que j'aime là-dedans. Donc, il y a des bateaux volants, il y a des mousquetaires, des pirates, il y a de la cape et de l'épée, du mysticisme, ce que vous pouvez imaginer, c'est des îles de nuages flottantes, c'est capoté, là, c'est vraiment, là, je disais ça, puis il y a une petite présentation sur leur site web, d'ailleurs, vous pouvez trouver tout ça avec des liens vers tous ces jeux-là sur www.henny-awards.com, donc E-N-N-I-E-awards.com, nominations, alors vous allez trouver tout ça. C'est vraiment intéressant. Et il me reste peu pour beaucoup de temps, on me fait des signes, des petits coups là, ça commence à faire mal.
Alors je vais une bine sur l'épaule.
C'est ça, alors je vais accélérer un peu. Non, c'est ça. Attendez, j'essaie de voir. Ah oui, le meilleur produit gratuit, hein, toujours bien. Il y a Under the Vigil Quick Start, excellent. Il y a aussi A Song of Ice and Fire. Il y a justement un des règles de base pour y goûter. Donc vous en avez d'autres aussi là comme ça. Alors je vous et pour finir quand même, rapidement, les nominations pour le meilleur jeu, puis il y a aussi le produit de l'année. Hein, c'est deux gros prix. Alors, meilleur jeu Cthulhu Tech, Dark, ça revient. Dark Heresy, Dungeon and Dragons, 4e édition, Song of Ice and Fire, Starblazer Adventure. Bon. Et produit de l'année, ben là, il y en a plein, là, mais moi, celui que je vais voter, vous allez voir ça. Moi, je pense que j'hésite, là. Mais il y a peut-être Swashbucklers of the Seven Skies, une fois que j'aurai lu, ou Song of Ice and Fire. En tout cas, bref, allez voir ça.
Donc, c'est possible de voter aussi?
Oui, vous pouvez voter si vous êtes membre des N-World. Et si vous cherchez un nouveau jeu de rôle, un récent, là, c'est la place à aller voir pour magasiner. Ceux qui sont nominés, là, c'est, en général, c'est très bien.
Donc, les gens qui veulent plus d'informations, nworld.com.
Oui, nworld.com.
Merci beaucoup, Christian.
De rien.
Et on y va en musique, François.
On va aller écouter une pièce d'une artiste canadienne qui s'appelle Krista Muir, qui avait d'autres pseudonymes, qui a fait, entre autres, J'ai un blanc. Mais en tout cas, Krista Elmuir qui va faire Summer Eyes, c'est super cute, c'est du ukulélé. Vous écoutez Puissance Maximale.
Summer Eyes, I always saw Summer Eyes. Leave me Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
Et on y va tout de suite avec une chronique de jeux vidéo. J'ai visité, comme à toutes les semaines, je visite le fameux PlayStation Store, le magasin de PlayStation, pour voir quelles sont les nouveautés de la semaine. Puis je me suis aperçu que pour cette semaine seulement, si j'ai bien lu, il y a une vente d'été de jeux vidéo. Et des jeux vidéo là qui sont pas des jeux sur disque, là, vraiment les jeux qu'on télécharge sur le site de PlayStation.
Donc c'est souvent des petits jeux.
Ce sont des petits jeux, mais quand même intéressants, des petits jeux le fun, là, vraiment, qui prennent pas beaucoup de place. Puis c'est vraiment très bien. Alors, je vais vous en nommer quelques-uns. Je les ai essayés, puis je trouve ça une belle petite sélection. Pas toujours extraordinaire, mais quand même, et même des jeux qui sont visuellement intéressants. On commence avec Wipeout. Vous connaissez Wipeout, c'est une série de jeux là, depuis le milieu des années 90, même dans la lignée des F-Zero, Nintendo, puis tout ça. C'est Wipeout HD, qui est un mix, en fin de compte, de deux Wipeout qui ont fait pour le PSP. Ils ont sorti deux jeux Wipeout pour le PSP, ils ont fait ça un mix, et ont décidé de mettre ça sur le PlayStation Store avec une résolution de 1080p qui est vraiment extraordinaire. Ils détaillaient à 19,99$, ils ont descendu 5$, 14,99$. C'est quand même intéressant comme jeu. Si vous aimez les jeux de course, des bolides futuristes, 8 concurrents par course, 3 modes possibles, une campagne en solo, jouer en ligne avec des gens, faire des courses individuelles.
Est-ce qu'on peut se tirer dessus?
Oui, sur Wipeout, justement, c'est ça qu'on peut faire. C'est qu'on peut éliminer l'adversaire ou en tout cas essayer de l'affaiblir pour pouvoir passer devant lui.
Parce que moi, s'il y a un jeu de course, tu peux pas te tirer dessus, c'est sans intérêt.
Non, c'est vraiment ça. T'as je m'excuse pour l'anglicisme, là, mais des power-up que tu peux aller chercher sur la piste, puis tu peux avoir différents missiles, pouvoir les arrêter, okay, tout ça.
Donc, c'est une simulation de... Non, OK.
C'est... non, mais c'est des circuits fermés, donc il n'y a pas de danger de s'en aller à gauche, à droite, mais on peut également perdre la puissance dans notre bolide et ne pas être capable de terminer la course.
Fait que tu as des turbos là-dedans.
Eh oui, mais les turbos, ce sont vraiment, faut aller sur la piste pour les avoir là. C'est vraiment vraiment intéressant. Donc 14,99 5 pièces de rabais pour Wipeout HD. Crash Commando. Crash Commando qui est un jeu de tir en 2D qui est graphiquement là incroyable. On dirait une bande dessinée un peu cartoon là, tout ça. Ouais. C'est un jeu style arcade, c'est un jeu de guerre entre deux clans, les Grins puis les Jarheads. Et c'est un jeu de tir tout simplement là. Je veux dire, c'est des petits bonhommes qui se promènent. Nous, on est un bonhomme. Puis on a un choix d'armes incroyable. Shotgun, lance-roquette, lance-bombe, un sniper, une mitrailleuse. On peut choisir ça. Des mines antipersonnelles.
C'est comme Worm, c'est-à-dire c'est.
Oui, ça ressemble un peu à Worm, mais on se déplace plus rapidement. Puis nos personnages ont comme un jetpack dans le dos, ce qui fait qu'on peut voler. Et ce qui est intéressant, c'est que
par tour.
Oui. Pardon?
C'est par tour?
C'est en temps réel. Okay. C'est vraiment éliminer l'adversaire, soit en deathmatch, soit en team deathmatch, ou on peut des missions à objectif aussi, poser des bombes, aller les enlever, des choses comme ça. Puis ce qui est vraiment intéressant par ça, c'est que c'est un jeu 2D, mais il y a deux plans de jeu. On joue en avant de l'écran, donc disons si on est dans l'écran, on joue en avant, et on voit ce qui se passe dans le deuxième plan en arrière, et on peut se rendre au deuxième plan en passant par des tunnels.
Ah ouais?
Donc si on voit des gens dans notre équipe qui se font attaquer l'autre bord, on passe dans un tunnel, et hop, on arrive de l'autre côté, on peut aller les aider.
Ah ouais.
Donc c'est vraiment intéressant comme jeu, c'est bien fait. Puis 4,99$, là, vraiment, moi je pense que ça vaut la peine de mettre la main là-dessus. Si vous aimez les petits jeux de tir, ça s'appelle Crash Commando et c'est vraiment très bien. Un autre jeu à 4,99$ qui est fait par Sony, Pixel Junk Eden. Bon, c'est un jeu qui est plus un jeu de... En fin de compte, c'est un jeu qui a plus une sensibilité artistique, je dirais. On a Mathieu ici qui est un artiste avec nous là. C'est entre l'œuvre d'art. Puis quand j'ai vu le jeu, ça me faisait penser un peu à ce que tu fais comme art. Je voyais les lignes qui se dessinent dans l'écran, puis ça me faisait penser à tes lignes que toi tu fais. En fin de compte, le jeu, c'est qu'on contrôle un Grimp. C'est quoi un Grimp? C'est une petite puce, tout simplement, qui est un mélange entre grip puis jump. La seule chose qu'elle peut faire, cette petite puce-là, c'est s'agripper sur les tiges de plantes qui sont dessinées, parce qu'on est comme dans un jardin, et sauter.
Okay.
Et ce qu'on doit faire dans ce jeu-là, c'est d'aller de plante en plante, monter le plus haut possible sans jamais retomber, parce qu'on perd du temps si on retombe, et c'est d'aller trouver le pollen dans l'atmosphère. Mais vraiment, il n'y a rien de coloré. Là. C'est vraiment fond noir, ligne verte. Mais c'est impressionnant quand même. Donc, c'est trouver les brins de pollen et les envoyer dans des bulbes pour créer d'autres plantes et de monter le plus haut possible sur le jeu. Bon,
parce qu'en nourrissant les plantes, dans le fond, les plantes grossissent.
Par le pollen. Et une fois que nous, on va s'intégrer dans ce bulbe de pollen-là, hop, là, on peut avoir des plantes qui grossissent et monter.
Okay.
Bon, c'est pas le jeu le plus hot, mais c'est addictif. On parlait tantôt d'addiction. Là, c'est vraiment addictif. On veut vraiment essayer. Puis, ce qui est plus addictif là-dedans, c'est les trucs. trophées. Là, on va aller chercher les trophées qu'il y a, là, puis on veut vraiment le faire, donc c'est plus ça.
Sauf pour François, parce qu'on peut pas tirer, François.
Ah, non, malheureusement, il n'y a pas de tir là-dedans. Et un dernier jeu dont je voulais vous parler, il est à 7,49 celui-là. Il est fait par Capcom, c'est ça qui m'avait attiré plus que d'autres choses, parce que Capcom, c'est une compagnie qui est quand même reconnue, qui est quand même bien basée. C'est Flock. Qu'est-ce que c'est Flock? C'est un jeu de puzzle dans lequel nous sommes des extraterrestres. Et on a une soucoupe volante et nous survolons un territoire X qui est vraiment fait en puzzle, un petit casse-tête ou même en labyrinthe.
Il faut kidnapper et des vaches.
On doit kidnapper des animaux. On doit kidnapper des moutons, des cochons, des poules ou des bœufs.
C'est toujours les mêmes stéréotypes, quoi.
Donc, et c'est un jeu hyper coloré, une vue aérienne un peu à la SimCity. On se déplace comme ça. Et il y a 55 niveaux, 55 tableaux différents là, qu'on peut faire. Possibilité de jouer en solo, en coopération. On peut même créer nos propres tableaux, un peu dans, comme le Little Big Planet, là, dans lequel on peut créer nos... Ça ressemble un peu à ça, mais pas vraiment non plus. Là. Donc, on peut créer nos tableaux. C'est pas toujours facile. On peut penser que c'est niaiseux d'amener le mouton directement dans notre soucoupe volante, mais il y a plein d'obstacles. Parfois, il y a des falaises, les moutons tombent, puis si t'en fais tomber trop à l'eau, ben là, t'en as plus assez parce que t'as un quota que tu dois ramener dans chaque tableau, un quota d'animal.
On dit le gouvernement est là-dedans.
Eh oui, et voilà. Mais c'est quand même intéressant. Là. Moi, j'ai trouvé que c'est un beau petit jeu. C'est 7,49. C'est Capcom qui le fait. Puis sur la liste également, rapidement, juste vous nommer, là, on retrouve les jeux NHL Arcade 3 contre 3, Brain Chat, qui est comme les jeux là, pour faire travailler ton cerveau. Et Savage Moon, que j'ai pas acheté, mais qui a l'air quand même intéressant. C'est un jeu de défense stratégique, dont ceux qui aiment les jeux de stratégie, c'est vraiment un jeu de défense, là, vraiment bien orchestré. Savage Moon, qui je pense lui aussi est à 4,99. Donc ça fait le tour des jeux de PlayStation qui sont en spécial, mais ça se peut que vous les retrouviez également sur Xbox 360, je ne l'ai pas vérifié, à part pour les jeux, bien sûr, qui sont exclusivité Sony, mais par exemple, le jeu de Capcom, il est possible, j'imagine, qu'on puisse le retrouver sur le Xbox Live.
Donc, merci Vincent. Donc, les jeux Crash Commando, Pixel, Junk, Eden, Flock, Savage Moon, ça peut se trouver sur Xbox et ça a l'air super intéressant.
Excellent. Et ça met
la fin de
le
émission.
Point final à l'émission, bien sûr. Le temps de remercier Mathieu Place qui était ici avec nous.
Hey.
Et également Christian Lacroix.
Plaisir.
Merci les gars d'être passés à l'émission. François, merci pour ton bon travail, comme merci à l'habitude, à toi, de la console. Ça me fait plaisir.
Merci.
Et on va se dire à tous une bonne semaine.
Harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before.
Nope.
Mm-mm. Woo! Take it home. A little solo for it. One more time.
Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.